RCF.
Amis auditeurs, amis auditrices, se plonger dans l'œuvre de Jacques Ellul, c'est découvrir l'œuvre d'un penseur majeur du XXe siècle, d'un homme engagé dans son siècle et aussi d'un grand spirituel. Nous voilà embarqués dans une aventure décapante. La vie et l'œuvre de Jacques Ellul nous invitent à plus d'une remise en question, à plus d'une conversion. C'est toutes nos habitudes de pensée et nos styles de vie qui se trouvent interrogés. Mais tel est le prix à payer pour Jacques Ellul pour qu'une lucarne s'ouvre et qu'une lumière perce les ténèbres de l'avenir. Tel est le prix de l'espérance. Ce sont les mots de Frédéric Rognon, qui est notre invité pour ce deuxième volet de dialogue consacré à Jacques Ellul. Bonjour Frédéric Rognon.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Vous avez consacré de nombreux textes, de nombreux articles, ouvrages à Jacques Ellul. En particulier, dans la collection Prier 15 jours aux éditions Nouvelle Cité, Prier avec Jacques Ellul, théologien de l'espérance. Alors Jacques Ellul, nous avons commencé à explorer sa pensée, historien des institutions, théologien, engagé dans l'écologie. L'œuvre d'Ellul est considérable, essentielle pour répondre aux problèmes de notre temps. J'aimerais vous poser pour commencer une question peut-être plus personnelle, celle de votre rencontre intellectuelle avec Jacques Ellul. Qui est Jacques Ellul pour vous, Frédéric Rognon? Quelle est la place que vous lui accordez dans votre propre cheminement?
Alors, c'est un homme que je n'ai pas rencontré physiquement. Je suis d'une génération qui aurait pu, qui aurait permis cette rencontre, mais ça ne s'est pas fait. Donc, je l'ai rencontré à travers les textes, à travers son œuvre, mais au cours de mes études de théologie, voilà, je l'ai vraiment fréquenté et chaque livre me renvoyait un autre livre, ce qui m'a permis de faire le tour de son œuvre en 4 ans, hein, de lire la totalité de son œuvre. Et pourquoi est-ce que j'étais à ce point mordu par ses écrits? Et bien parce qu'il met des mots sur des convictions que j'avais, qui étaient plus peut-être qui avaient besoin de verbalisation, qui avaient besoin de s'exprimer, qui étaient plus confuses. Voilà, il m'aide vraiment et il m'accompagne depuis maintenant plus de 25 ans. Il m'accompagne au quotidien dans cette lecture de notre vie, de notre actualité, de notre monde, en mettant des mots et en donnant une grille de lecture qui me semble très fructueuse.
Alors cette grille de lecture, nous allons la reprendre avec vous autour de cette question qui est quand même centrale aujourd'hui, et cette question de l'écologie. Nous sommes au bord du gouffre, c'est une de vos propres phrases, par rapport à cette urgence climatique, écologique. C'était le diagnostic de Jacques Ellul. Nous l'avons un petit peu évoqué déjà, mais en quoi consiste ce diagnostic? On peut parler d'écologie, c'est un avant-gardiste, une écologie précoce chez Jacques Ellul.
Très certainement, il parle de sobriété, par exemple, un mot qui est devenu un peu à la mode aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout à l'époque. Il en parle dès 1935. Il n'y avait pas beaucoup d'écologistes en 1935, donc dans ses premiers textes, il voit les dérives du progrès, du productivisme. Il voit à quel point la société technicienne, marquée par la technique, nous conduit vers l'abîme. Et donc, il invite ses lecteurs à une conversion, à une révision de nos véritables besoins et à une sobriété, à une vie beaucoup plus simple. Et ce qu'il voit comme risque de la technique, c'est quelque chose qui est encore, je crois, inaudible aujourd'hui, mais qui l'était d'autant plus à l'époque, qui est l'autonomisation de la technique. C'est-à-dire ce qu'il dénonce, c'est que la technique a pris son autonomie par rapport à la politique ou à nos possibilités d'infléchir la courbe de notre histoire. La technique est devenue quelque chose de une sorte de force autonome que nous n'arrivons plus à maîtriser. Et nous faisons comme si nous la maîtrisons, mais en réalité, elle nous a échappé en quelque sorte. C'est ça qu'il dit et qui évidemment fait froid dans le dos, mais qu'il essaye de montrer à travers toute son œuvre.
Il dénonce également les faux remèdes ou les prétendues solutions, par exemple confier à l'innovation technique la mission de relever les défis écologiques. Pourquoi est-ce une mauvaise solution, selon Jacques Ellul ?
Eh bien, comme nous l'avons évoqué lors de la première émission, pour Jacques Ellul, la technique est ambivalente. C'est-à-dire qu'elle apporte à la fois des effets positifs, un plus grand confort, une plus grande rapidité, une plus grande efficacité pour l'être humain, et en même temps des effets délétères, catastrophiques, destructeurs. Et donc, si on propose des solutions techniques ou techniciennes aux problèmes posés par la technique, eh bien, le fait que la technique soit ambivalente, les solutions elles-mêmes seront ambivalentes. C'est-à-dire que les solutions vont elles-mêmes poser de nouveaux problèmes. On va avoir tendance à de nouveau chercher du côté de la technique des solutions à ces nouveaux problèmes. Et vous voyez que c'est une course sans fin qui est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que si on cherche toujours des solutions techniques aux problèmes posés par la technique, eh bien, nous nous enfermons dans un cercle absolument mortifère. Et il s'agit de prendre de la distance et une distance critique vis-à-vis de la technique pour ne pas chercher systématiquement des solutions techniques aux problèmes posés par la technique, ce que nous faisons pourtant tout le temps.
Alors il y a une voie que vous avez poursuivie, qui a été frayée par Jacques Ellul, c'est cette question, cette réponse autour de la non-puissance. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il ?
Alors là, nous sommes au cœur de la dialectique entre sociologie ou critique sociale et théologie, puisque Jacques Ellul a écrit son œuvre en dialectique entre ces deux versants. La non-puissance, il l'attire de sa lecture de la Bible. Il considère que le Christ est non-puissant. Qu'est-ce que c'est que la non-puissance ? Bien, ce n'est ni la puissance, ni l'impuissance. Ce n'est donc ni la puissance, c'est-à-dire la capacité de faire des choses, ni l'impuissance qui est l'incapacité de faire des choses, mais la non-puissance, c'est la capacité de faire des choses et le choix de ne pas les faire, ou en tout cas de ne pas toutes les faire. Et le Christ est effectivement un exemple et un modèle de non-puissance, puisque si on considère, et Jacques Ellul était très classique dans sa théologie là-dessus, si on considère que Jésus est Dieu, si on croit à la Trinité et donc à la toute-puissance du Christ, eh bien le Christ avait la possibilité de faire des quantités de choses qu'il n'a pas faites. On lui a demandé de faire des miracles uniquement pour montrer sa puissance, il a refusé ces miracles, il n'a fait de miracles que lorsque c'était en lien avec l'amour et la vie. Il aurait pu échapper à son arrestation, il aurait pu échapper à la souffrance et à la mort, mais il s'est soumis à son Père, et donc il est le non-puissant par excellence, celui qui a la possibilité de faire et qui ne fait pas, ou qui ne fait pas tout. Eh bien, en tant que disciple du Christ, dans notre société marquée par la course à la puissance, nous sommes invités à la non-puissance, c'est-à-dire à une éthique du discernement. Parmi tous les possibles, parmi tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce qui est absolument inouï, sommes-nous forcément obligés de faire tout ce que nous pouvons faire ? Donc la non-puissance, c'est la possibilité de faire et le choix de ne faire que ce qui est en lien avec l'amour et avec la vie, et non pas par course effrénée à la puissance. C'est ça la non-puissance, et pour lui, c'est vraiment le message à faire passer auprès des chrétiens, ceux qui croient au Christ, ceux qui sont disciples du Christ, ben, suivons le Christ sur une éthique de la non-puissance.
Alors c'est la capacité de faire des choses et de faire aussi des choix raisonnés, alors même que nous sommes depuis plusieurs siècles, en tout cas dans une course à la domination de la nature, et nous croyons à une liberté démesurée. Cette idée qu'il faut finalement concilier liberté et responsabilité, est-ce que cela ne marque pas la personnalité protestante de Jacques Ellul ?
Oui, alors sa personnalité chrétienne,
en tout cas,
il est clair que la liberté et la responsabilité sont deux horizons, deux valeurs fondamentales pour les chrétiens. Mais alors, à condition de s'entendre sur les mots, le terme de liberté, déjà, il consacre plusieurs ouvrages à essayer de préciser ce qu'il entend par liberté. La liberté, ce n'est pas la possibilité de faire tout ce qu'on veut par caprice ou par désir ou par pulsion. ce qu'il appelle la liberté en Christ. La liberté chrétienne, c'est ce que le Christ nous propose. Ce n'est pas d'être libre vis-à-vis d'un objet extérieur à soi, c'est d'être libre par rapport à soi-même. C'est ça la liberté en Christ. C'est-à-dire ne pas être servile vis-à-vis de nos pulsions ou de nos déterminations sociales, mais d'être en mesure de prendre de la distance par rapport à soi. Et donc c'est ça qui est, selon lui, le cœur même de la vie chrétienne, c'est de s'appuyer sur le Christ et de se laisser libérer de soi-même par le Christ. Et ça, c'est un message absolument fondamental pour notre vie d'aujourd'hui, parce que nous sommes tellement conditionnés, tellement déterminés, tellement soumis à des emprises de toutes sortes, de propagande, de publicité, d'injonctions en permanence, qu'il est essentiel de se laisser libérer par le Christ, mais surtout de se laisser libérer de soi-même.
Alors, est-ce que cela n'implique pas de recentrer notre pratique sociale, nos pratiques politiques, économiques, notre gestion aussi, par exemple, de la santé, je pense à des exemples plus concrets aujourd'hui, sur la personne humaine, sur, on va dire, une réflexion sur la dignité de cette personne humaine. Je pense en particulier à un des engagements intellectuels, peut-être de plus jeune Jacques Ellul, lorsqu'il s'est rapproché du personnalisme, en particulier d'Emmanuel Mounier. Nous avons consacré dans Dialogue une émission à Emmanuel Mounier avec Foucault Giuliani. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette proximité, bon, qui a été aussi, il y a eu un éloignement, mais de cette question de la personne humaine, de son attention.
Effectivement, oui. Au cours des années 30, le jeune Jacques Ellul s'est rapproché de la revue Esprit et a rencontré Emmanuel Mounier, parce qu'il sentait que dans ce personnalisme, il y avait un recentrage sur l'être humain. Il s'agissait donc de remettre l'être humain au cœur de nos préoccupations, plutôt que de nous laisser embarquer par des systèmes, par des idéologies, par des chemins qui, autant à l'est qu'à l'ouest, hein, c'est-à-dire autant du côté du stalinisme que du côté du capitalisme à tout crin, eh bien, proposait une troisième voie, hein, c'est ce que proposait Emmanuel Mounier, une troisième voie, une voie personnaliste, une voie à hauteur d'homme, une voie communautaire aussi. Et donc, il s'est rapproché de lui pendant plusieurs années, et puis il s'en est éloigné. Là où il a senti certaines divergences, et notamment sur la question de la technique, où Emmanuel Mounier était plutôt optimiste, hein, vis-à-vis des progrès techniques, là où Jacques Ellul, déjà à la fin des années 30, considérait qu'il y avait à discerner l'ambivalence de la technique. Et donc il a rompu, on peut dire, il a rompu avec Mounier en 1937, mais il est resté fondamentalement personnaliste, considérant que l'être humain ne doit pas être négligé dans toutes nos réflexions.
Alors cette attention à la personne humaine est indissociable, et c'est en cela qu'il était en avance, on peut dire, sur ses contemporains, l'homme indissociable de l'ensemble des vivants, l'homme indissociable aussi de ce qu'est la nature et de l'attention à la nature.
Précisément, il mettait l'accent sur l'être humain, mais l'être humain en relation les uns avec les autres et en relation avec tout le vivant. Il a relu la Bible avec ce prisme-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit des animaux? Qu'est-ce que la Bible nous dit de la création? Et il a considéré, là aussi un peu avant tout le monde, hein, il avait le tort d'avoir raison avant les autres, il a considéré que les chrétiens avaient négligé cet aspect-là. Il y a un amour de Dieu infini pour l'être humain, bien sûr, mais pour toute la création, et donc une responsabilité de l'être humain, de garder, de préserver, de cultiver, mais aussi de sauvegarder l'ensemble de la création, et notamment les animaux, qui sont sous notre responsabilité. Nous n'avons pas à les exploiter, nous n'avons pas à les dilapider ou à les utiliser comme du matériau, comme quelque chose de purement, un stock purement matériel, mais nous avons à les reconnaître comme étant eux aussi aimés infiniment par Dieu.
Dans un de ses ouvrages les plus connus, Jacques Ellul interrogeait le statut de la parole dans une société de l'image. Le déferlement des images permettrait de supporter notre condition car elle nous dispense de réfléchir. Comment Ellul analyse-t-il cet état de fait qui est dominant, majeur aujourd'hui ?
Alors Jacques Ellul avait vu très tôt que notre société allait devenir une société de l'image. Il voyait ça dès les années 40, hein, une époque où ce n'était pas forcément la lucidité de tous les intellectuels. Et ensuite, dans un livre intitulé « La parole humiliée » en 1981, il indique à quel point l'image a pris une place exorbitante dans nos vies et cela n'a fait que se confirmer par la suite et depuis la mort d'Ellul. Ellul avait prévu ce qui nous arrive aujourd'hui, cette avalanche, hein, ce Niagara d'images, comme il disait, cette avalanche d'images qui nous détourne d'une réflexion, d'un discernement, parce que l'image, eh bien, elle est immédiate. Et elle est facilement manipulable aussi. Hein. C'est très facile d'orienter ceux qui sont des consommateurs à haute dose d'images, c'est-à-dire nous tous, de les orienter vers un chemin de manipulation, ce qu'il appelait la propagande horizontale. Non pas une propagande qui viendrait du sommet, qui viendrait d'un pouvoir politique, mais une propagande qui insidieusement se propage dans nos vies et nous amène à adopter un mode de vie qui n'est pas forcément celui qu'on aurait choisi par discernement et par réflexion. Et donc cette image, eh bien, elle est le support d'une propagande, d'une manipulation permanente de nos vies. On peut dire que cela n'a fait que se confirmer aujourd'hui et que cela va probablement se poursuivre.
Alors ce monde des images est aujourd'hui plus que jamais indissociable de grandes puissances économiques. On parle de GAFAM, je ne vais pas citer le nom de ces grandes puissances-là. C'est aussi une critique politique que va mettre en place Jacques Ellul. Jacques Ellul qui avait lu Marx dans sa jeunesse et avec une approche plutôt existentielle, on va dire, de la pensée de Marx. Jacques Ellul a thématisé la révolution. Alors, quel sens donnait-il et comment parler aujourd'hui de ce terme-là ?
Alors, le terme de révolution, qui était un mot assez récurrent dans les discours des années 60-70. Hein. Jacques Ellul était professeur d'université, donc au contact avec la jeunesse, et il entendait ce mot dans toutes les phrases, hein, le mot de révolution. Mais il montre dans trois livres consacrés à la révolution que, en réalité, dans la société technicienne, la révolution au sens où on l'entend chez Marx ou chez les jeunes de cette époque n'est plus possible. La société technicienne récupère toute velléité révolutionnaire à son propre profit et que donc il n'y a pas de révolution possible. Et du coup, c'est pour cela, disait-il, qu'on parle tant de révolution, c'est parce qu'en parlant, cela nous évite de la faire. C'est l'inflation du terme révolution, révolutionnaire, qui nous dispense de faire précisément la révolution que l'on ne peut plus faire. En revanche, il y a une révolution possible, mais ce n'est pas la révolution au sens classique, c'est la vie en Christ. Hein. C'est la seule révolution possible, c'est le christianisme, c'est la vie chrétienne qui est la seule réelle prise de contrôle de notre propre vie par nous-mêmes, en nous laissant transformé par le Christ, alors nous entrons dans une dimension révolutionnaire. Et il disait, par exemple, en 69, donc dans le sillage de mai 68, l'attitude la plus révolutionnaire aujourd'hui, c'est la contemplation. Et pourquoi cette phrase un peu provocatrice, hein, pourquoi la contemplation ? Ben précisément parce que la contemplation est l'attitude qui va exactement à contre-courant de la société technicienne, d'une recherche d'efficacité et de vitesse, et de voilà, nous courons tout le temps. Eh bien, le fait de s'arrêter et de contempler, c'est révolutionnaire, puisque cela va à contre-courant et met en question les orientations de notre société moderne.
si vous voulez être vraiment révolutionnaire dans cette société, soyez des contemplatifs. Hein, c'est ce que nous disait Jacques Ellul, que vous venez de commenter. Il puise dans le message évangélique, dans le commentaire biblique aussi, cette voie-là qui va nous donner des éléments de réponse pour agir face à cette société ou ce système technicien. Mais la lecture de Jacques Ellul nous invite aussi peut-être à trouver par nous-mêmes cette réponse, parce que il ne donne pas de leçons, il invite son lecteur à réfléchir à partir de ce diagnostic.
Tout à fait. Jacques Ellul a une lecture de la Bible. C'était un lecteur assidu hein, de l'Écriture. Il lisait l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Donc il avait une lecture très fine et très, très sérieuse de l'Écriture. Mais à contre-courant, je dirais même de sa propre famille protestante, dans laquelle on lit l'Écriture pour essayer de trouver des réponses à nos questions. Dès qu'on a un problème éthique, social, politique, on se tourne vers la Bible. Lui disait, mais ne cherchez pas dans la Bible des réponses à vos questions, parce que la Bible ne répond pas aux questions qui viennent de nous, qui ne sont pas issues directement de la Bible, mais qui viennent de nos propres préoccupations. Mais prenez la Bible comme un livre, non pas de réponses à nos questions, mais un livre de questions. La Bible est un livre de questions et non pas un livre de réponses, encore moins un livre de recettes. C'est un livre qui questionne le lecteur. C'est Dieu qui questionne celui qui lit la Bible. Et lorsque, par exemple, dans la Bible, un personnage biblique reçoit une question, par exemple Caïn qui reçoit la question de Dieu, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» ou bien Jésus qui questionne ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Eh bien, chaque fois que nous lisons ces textes, c'est à nous que s'adresse la question, c'est Dieu qui nous demande de répondre « Qu'as-tu fait de ton frère ? Qui dites-vous que je suis ?» C'est nous qui devons en responsabilité chercher à répondre avec notre vie à ces questions que Dieu nous pose à travers la Bible.
Alors ces questions que Dieu nous pose à travers la Bible, ces questions sont à réactualiser aussi sans cesse en fonction de ce que nous vivons. J'ai relevé quelques mots de Jacques Ellul dans un entretien au Figaro en 1992, donc 2 ans avant sa mort. « Nous allons vers une tragédie générale. Le système des pays développés ne peut progresser indéfiniment dans un monde par essence fini. » Il interroge l'idée même de croissance, Jacques Ellul, sociologue, la journaliste répond peut-être êtes-vous moraliste, et il dit ben, je suis surtout réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez de cette position ?
Alors il se voulait réaliste, c'est-à-dire il voulait voir la réalité telle qu'elle est. Et par exemple, cette fameuse formule que on cite souvent sans savoir qu'elle est d'Ellul, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini, cela lui semblait une évidence. Et pourtant, eh bien, nous faisons comme si le monde était infini, comme si nous avions des ressources et des capacités d'absorption de nos déchets en quantité infinie, alors que, eh bien, la finitude de la Terre, la finitude de la planète, la finitude de nos existences devrait nous conduire à plus de sagesse et une plus grande sobriété, une révision de nos besoins réels. Donc c'est ce réalisme-là, il tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, nous allons vers un chaos généralisé, vers une tragédie générale, si nous continuons sur la même lancée de la course à la croissance économique effrénée et à la croissance technologique effrénée. C'est une forme de... On pourrait dire c'est une forme de pessimisme. Lui préférait parler de réalisme, ou alors quand il parlait de pessimisme, il disait « Je suis un pessimiste rempli d'espérance ». C'est-à-dire que le pessimisme et l'espérance ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, c'est parce qu'on est réaliste et qu'on voit que, eh bien, que la trajectoire de notre société et de la planète va dans le mur, va vers l'abîme, qu'alors nous pouvons nous laisser nourrir par l'espérance qui vient de Dieu.
Pour répondre au déterminisme, au conditionnement et pour échapper au désespoir ou au nihilisme, le chrétien répond par, Jacques Ellul répond par la foi. Vous évoquez l'espérance. On peut distinguer, et je m'appuie sur votre propre réflexion, l'espoir et l'espérance. L'espoir, on va dire, qui place nos projets face à des possibles et l'espérance qui s'affirme face à l'impossible. L'espérance, c'est l'orientation aussi collective et individuelle de la vie. C'est résister aussi, non ?
Tout à fait. Hein. L'espérance, c'est le cœur même de la vie chrétienne, c'est une vie de résistance. Jacques Ellul non seulement distinguait espoir et espérance, mais il les opposait même. Il y a une dialectique à trois termes dans sa pensée, espoir, désespoir, espérance. L'espoir, c'est effectivement la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine. C'est donc l'optimisme, si vous voulez. Le désespoir, c'est l'absence de perspective et donc l'avenir est bouché. Plus aucun rayon de lumière n'est perceptible. Et c'est l'attitude de beaucoup de nos contemporains, hein, cette éco-anxiété, cette conviction que plus rien n'est possible, que tout est perdu. Eh bien, l'espérance, ce n'est ni l'espoir ni le désespoir, ou plus exactement, l'espérance s'appuie sur le désespoir, c'est-à-dire il n'y a plus de perspective à vue humaine, nos œuvres politiques et techniques ne nous sauveront pas. C'est donc le désespoir qui l'emporte, mais le désespoir va faire surgir l'espérance. Et l'espérance, c'est la confiance dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous promet pour aujourd'hui ? Il nous promet non pas la sortie du terrorisme ou la sortie du dérèglement climatique ou la fin de la guerre en Ukraine ou à Gaza, la fin de toutes les pandémies. Qu'est-ce qu'il nous promet ? À la fin de l'évangile selon Matthieu, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc l'espérance, c'est la conviction que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes donc porté par un plus grand que nous, et qu'il est donc avec nous, non pas pour résoudre la situation d'un coup de baguette magique, mais pour nous accompagner à travers les catastrophes qui se profilent et qui sont déjà là. Et ça, l'espérance, c'est cette conviction que nous sommes portés. Et donc, ce n'est ni l'espoir, ni le désespoir, mais autre chose. Et c'est de cela que les chrétiens sont appelés à témoigner auprès de leurs contemporains qui sont partagés entre l'espoir et le désespoir.
Frédéric Rognon, juste une dernière question à propos de votre livre « Prier avec Jacques Ellul, théologien de l'espérance hein, » paru aux éditions Nouvelle Cité. Jacques Ellul, homme de prière, le sens de la prière avec Jacques Ellul en quelques mots.
Alors Jacques Ellul était très pudique sur sa vie spirituelle, mais il a quand même parlé de la prière, il a consacré un livre à la prière. La prière comme étant la boussole de notre vie, la respiration de notre vie, mais aussi la prière comme un combat. Un combat avec Dieu contre nous-mêmes. Un combat contre Dieu, un peu à l'image de Jacob hein, au guet d'Yabok, qui combat contre un ange, mais finalement, il combat contre lui-même. Et donc la prière, c'est un combat contre nous grâce à Dieu qui est avec nous pour l'emporter, pour que nous puissions nous-mêmes l'emporter sur nous-mêmes.
Merci infiniment Frédéric Rognon de nous avoir fait cheminer dans la vie et la pensée de Jacques Ellul, lire, comprendre, méditer avec Jacques Ellul, c'est essentiel. Merci à Nathan Faure, à la production technique et merci à nos amis de RCF Strasbourg, en particulier Théo Giandoni, grâce auquel cet entretien a pu être enregistré dans d'excellentes conditions.